Voilà, bonjour à chacun, à chacune. La Bible dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Eh bien, j'ai l'honneur et le privilège de vous dire qu'aujourd'hui prendra fin la série sur le Saint-Esprit. Mais comme à la fin d'un repas, c'est toujours le dessert, nous voulons nous aussi laisser captiver par la parole de Dieu qui sera pour nous comme un dessert dans cette série. Amen. Alors, je propose tout de suite d'ouvrir la Bible dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7. Jésus vient de parler à ses disciples et à la foule de comment mettre en pratique la parole de Dieu et ne pas simplement l'écouter pour l'oublier. Il parlera du sage qui bâtit sa maison sur du roc et du fou qui bâtit sa maison sur du sable. Et puis au verset 28 du chapitre 7, si on pouvait, voilà, il est dit ceci. Quand Jésus eut achevé ses discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme les scribes. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait la différence entre l'autorité de Jésus et celle des scribes? Et puis finalement, même après plus de 40 ans de conversion, je n'ai jamais vraiment réalisé et cherché comment les scribes enseignaient. J'ai plus cette lacune aujourd'hui puisque j'ai quand même recherché. Et puis j'aimerais vous expliquer comment enseignaient les scribes ou qu'est-ce qu'était un scribe. Le scribe, c'était d'abord un homme érudit qui recopiait la Bible avec un grand soin. Son rôle principal était d'étudier la loi pour ensuite l'enseigner au peuple d'Israël. C'était aussi un écrivain public de l'époque. Et par exemple, on louait ses services pour écrire une lettre officielle ou pour régler un problème juridique en relation avec la loi. Ils étaient très respectés, ces scribes, par les Juifs parce qu'ils avaient beaucoup de connaissances bibliques. Puis en ce sens, ils jouissaient d'une certaine autorité dans leur fonction de docteur de la loi. Mais par contre, au niveau de l'enseignement, c'était un petit peu la galère, parce que leur enseignement était sec, était sans révélation, et n'apportait absolument pas la vie. En fait, l'enseignement du scribe consistait avant tout à mémoriser des phrases par cœur. Il s'agissait donc d'inculquer aux élèves des questions toutes faites et des réponses toutes faites, répétées à l'infini, 10 fois, 100 fois. 1000 fois, 10 000 fois, jusqu'à ce que finalement ça entre en nous. Alors vous pensez bien que les élèves n'étaient pas nombreux à se bousculer au portillon pour recevoir ce genre d'enseignement. Et il est dit que quand Jésus eut achevé ses discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme les scribes. Alors, l'enseignement de Jésus, venons-en, nous le savons, était tiré en grande partie des événements de la vie de tous les jours. Elle avait une implication pratique et spirituelle, personnelle. Quel que soit son auditeur, celui-ci pouvait comprendre la portée de l'enseignement de Jésus, prendre position et agir dans sa vie. Cela contrastait avec l'enseignement stérile et ennuyeux que les scribes donnaient. Mais posons-nous la question, au-delà des mots prononcés, au-delà des exemples proposés, au-delà des illustrations de qualité, Jésus avait quelque chose en plus. Il avait une autorité particulière qui bouleversait les foules. La question qu'on pourrait se poser, c'est d'où est-ce que Jésus tient cette autorité? Alors, ce serait trop facile et faux de dire « oui, mais Jésus est Dieu ». Et pour lui, ce n'était pas trop compliqué d'avoir cette autorité, parce qu'il fait la différence finalement entre les scribes et lui. Mais on se trompe, parce que dans son incarnation, Jésus-Christ s'est dépouillé des attributs de la divinité pour vivre comme un homme au milieu de nous. Alors il faut revenir au début de l'évangile, au début de son ministère, pour bien comprendre d'où lui venait cette autorité. Et je vous propose de lire avec moi le chapitre 4 de Luc, d'abord les deux premiers versets, qui dit ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Quelques versets plus loin, à la fin de ce temps d'épreuve, au verset 14, il est dit « Jésus retourna en Galilée avec la puissance du Saint-Esprit et sa renommée se répandit dans toute la région. » J'aime bien cette progression. Elle est très tangible dans le texte. Aux deux premiers versets de Luc 4, il est rempli, conduit par le Saint-Esprit. Mais au verset 14, il nous est dit qu'il est allé avec la puissance du Saint-Esprit. Alors pendant ces 40 jours et avant que Jésus ne commence son ministère, il a dû se passer quelque chose de particulier pour que la Bible nous parle très explicitement de ce changement en lui. Alors la réponse n'est pas dans le fait que le diable est tenté pendant 40 jours, mais plutôt dans le fait que Jésus n'a pas péché, n'a pas succombé à la tentation durant ce temps d'épreuve et qu'il est resté pur. Et avant de commencer son ministère, Jésus a ainsi été revêtu du Saint-Esprit, de sa puissance, de son autorité. Dans les épîtres, Paul, en 2 Timothée 2, nous donne l'exemple d'un vase qui reçoit un précieux contenu. C'est l'image de notre vie remplie du Saint-Esprit. Mais si le vase est impur, c'est-à-dire sale ou souillé par nos péchés, alors le Saint-Esprit en nous se trouve limité dans son action. Non pas à cause de lui, il est toujours tout puissant, mais bien à cause de nous. Oui, il reste tout puissant, mais il ne peut pas nous utiliser comme il le voudrait. Il est dit que, au verset 14, que Jésus s'en est retourné avec la puissance du Saint-Esprit et il n'a jamais baissé la garde. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais donné accès au diable, ni dans sa vie, ni dans son corps, ni dans ses pensées, ni dans ses paroles, ni dans ses actes, ni dans son cœur. Ainsi, tout comme Jésus, le fait d'être rempli du Saint-Esprit et de vivre une vie victorieuse sur le péché nous donne aussi autorité dans le monde spirituel. Et dès le début de son ministère, Jésus nous a démontré que son autorité était directement lié au Saint-Esprit. Et il va ainsi ouvrir, alors qu'il est dans une synagogue, le livre d'Ésaïe, et nous lisons ensemble au chapitre 4 de Luc cette prophétie d'Ésaïe que Jésus va lire devant ses auditeurs. L'Esprit du Seigneur est sur moi, versets 18 et 19, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour rendre libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et si on relit ces choses, c'est vrai que sans autorité, Jésus ne pourra rien faire du tout. Il est lié à cette prophétie parce que justement, il a reçu autorité pour vivre ces choses. Et il dira qu'il a autorité dans des miracles, il a autorité dans la guérison, puisque dans ce texte que vous avez sous les yeux, il est dit que l'Esprit m'a oint et m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Mais l'autorité de Jésus ne s'arrête pas à faire que des personnes soient guéries, c'est aussi une autorité pour parler, pour proclamer des choses, pour ce qu'on appelle aujourd'hui vivre l'évangélisation. L'Esprit m'a oint, dira-t-il, et il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et je prie que cette année 2020 soit pour vous une année de grâce, où Dieu vous fasse grâce, 22, oui, dans vos vies, dans vos familles, dans votre foi. Mais il y a aussi une autorité sur la délivrance pour chasser des démons. Et Jésus dit aussi que l'Esprit l'a oint et envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Il l'a oint et envoyé pour renvoyer libres les opprimés. Et Jésus avait véritablement cette puissance, cette autorité que lui a donnée l'Esprit Saint. Et tout son ministère va être empreint de cette autorité qu'il a reçue après avoir été dans l'épreuve pendant ces 40 jours au début de son ministère. Mais l'histoire n'est pas finie parce que Jésus, une fois qu'il a lu ce texte, nous dit le verset 20 et 21, nous dit que Jésus roula le livre et le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Je pense que d'ailleurs, un moment de silence, on dit, mais qu'est-ce qu'il va nous dire, Jésus? Qu'est-ce qu'il va faire? Et il se mit à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et finalement, la victoire de Dieu dans nos vies, ce n'est pas pour demain, ce n'est pas du futur, ce n'est pas un jour peut-être. Mais Jésus nous dit aujourd'hui, dans nos vies, pour nous, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Je suis venu et j'étais envoyé pour vous libérer de vos prisons, pour vous guérir, pour proclamer une année de grâce, pour qu'il y ait du changement dans votre vie. Dès ce moment précis, Jésus ne va jamais cesser d'exercer cette autorité, que ce soit par des miracles, par des guérisons, des délivrances, ou simplement au travers de sa parole quand il veut enseigner. Et si vous en doutez, regardez juste ce qu'il suit, toujours au chapitre 4, verset 31. Jésus descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappés de son enseignement, car il parlait avec autorité. Il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte « Hé ! Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon projeta celui-ci au milieu de l'assemblée et sortit sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Il est facile de dire à un aveugle, au nom de Jésus, recouvre la vue et vois. C'est facile. C'est facile de dire à une personne tourmentée, au nom du Christ, sois délivré du démon qui habite en toi. Rien de plus facile. Il suffit de répéter cette phrase, puis de la citer à quelqu'un qui est dans cette situation. Encore faut-il que des choses se passent. Parce que le miracle ne se passe pas parce qu'on proclame des paroles. Il se produit parce que la personne qui le dit a reçu autorité de la part de Jésus pour pouvoir le dire. Parce que cette personne, comme Jésus, a été ointe de son esprit et envoyée. Et on comprend que cette autorité, cette puissance n'est pas naturelle. Elle provient de Dieu qui nous la donne. En effet, ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que Jésus ne s'est pas contenté de démontrer son autorité. Non, il l'a donnée à ses disciples pour qu'eux-mêmes fassent les choses que Jésus a faites. Et même au dire de Jésus qu'il en fasse de plus grandes. Ce n'est pas merveilleux. Jésus dira en Luc 10, 19, alors que les disciples, étonnés de leur autorité, revenaient voir Jésus en disant... C'est incroyable, on prie et même les démons nous sont soumis. Et Jésus, au verset 19, dira de Luc 10, dira, « Voici, je vous ai donné le pouvoir, le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et ces paroles qui nous donnent accès à cette volonté de pouvoir entrer dans ce que Jésus nous propose, et rien ne pourra vous nuire. Et c'est cette même autorité qui font dire à Jean et à Pierre, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche, et que l'homme, non pas parce que ces paroles ont été prononcées, mais parce qu'elles ont été prononcées avec autorité, avec puissance, afin que cet homme a pu se lever, a pu retrouver sa dignité et a pu marcher. Alors Jésus était oint du Saint-Esprit et envoyé afin d'exercer l'autorité divine pour qu'il y ait des changements. On parlait de changement tout à l'heure en mélangeant un petit peu l'ordre du culte. Et avec Jésus, il y a eu des changements parce que l'autorité que donne Jésus, ça fait des changements. Et on le voit et on le lit dans les évangiles. Mais les disciples ont eux aussi été oints du Saint-Esprit et envoyés par Jésus afin qu'ils puissent exercer cette autorité divine pour qu'il y ait des changements. Et il y a eu des changements parce que l'autorité que Dieu nous donne font qu'il y a des changements dans nos vies ou dans leur vie. Et là, on a pu le lire dans le livre des Actes. De même, toi et moi avons été oints du Saint-Esprit et envoyé afin que Jésus exerce cette autorité dans nos vies pour qu'il y ait des changements. Mais il n'y a pas eu beaucoup de changements dans ma vie. Enfin, pas assez. Trop peu en vérité. Et dans la vôtre. On a pourtant une belle vie chrétienne, les amis. J'en suis sûr, on s'est converti, on est baptisé d'eau, certainement également baptisé dans le Saint-Esprit, on lit régulièrement notre Bible, on prie, on est membre de l'Église, on témoigne de temps en temps, on prie à table avant de s'endormir, et on essaye même de vivre conformément à ce que la Bible nous propose. En fait, on est des bons chrétiens, franchement. Et si, malgré cette bonne vie chrétienne, on avait perdu, on ne sait pas trop comment, mais cette autorité que le Saint-Esprit nous donne, si nos prières, vraiment sincères, authentiques, avaient perdu leur force, si finalement notre vie chrétienne ressemblait plus à un enseignement de scribe, où on dit des prières, mais où il n'y a plus cette autorité que Jésus aimerait voir dans nos prières. Est-ce que vous pensez que ça peut être possible dans ma vie? Est-ce que vous pensez que ça peut être possible dans votre vie? Que finalement, on a perdu cette autorité qui fait de nous des chrétiens plus que vainqueurs, des chrétiens conquérants, des chrétiens guerriers qui s'en vont au combat, au front pour gagner, pour vaincre, et non pas pour prendre la poudre d'escampette quand l'ennemi pointe le bout de son nez. Moi, je crois qu'on s'est contenté dans une bonne vie chrétienne de vivre notre foi sans vraiment démontrer au quotidien cette autorité que Dieu nous donne. Puis je vois trois raisons pour cela. La première raison, c'est que j'ai perdu cette autorité par négligence. Vous savez, petit à petit, je me suis endormi dans une vie chrétienne confortable et mes prières me suffisent vraiment pour combler mon existence. Je crois au miracle. Je crois à la guérison, je prie même parfois pour cela. Je vais même parfois à la prière pour qu'on prie pour moi. Donc pensez bien que j'y crois. Puis ça me suffit. Je n'ai vraiment pas besoin de plus. Laisse-moi te dire que si tu étais loin du Saint-Esprit, que tu as reçu l'autorité de la part de Jésus, c'est pour que tu vives une vie semblable à celle des premiers chrétiens. La vie que tu peux lire tous les jours dans le livre des Actes. Alors qu'aujourd'hui, soit le jour où tu reviennes à Dieu, peut-être en lui demandant pardon pour avoir négligé cette partie essentielle dans ta vie, qui est une vie de disciple. Et Jésus nous propose aujourd'hui de retrouver ce qu'on a perdu. Et il ne nous dit pas « un jour je ferai ceci pour vous, bientôt, bientôt », mais il nous dit ces paroles qu'on a lues dans Luc 10, « Voici, je vous ai donné l'autorité pour marcher sur la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Et si vous le désirez, comme je le pense, alors laissez cette autorité, une fois que vous l'avez demandée, se développer dans votre culte personnel en intercédant avec foi pour votre prochain, en proclamant toujours avec cette même foi la parole de Dieu sur votre vie. En fait, Dieu nous demande qu'on puisse retrouver cette autorité qu'on a négligée par une vie peut-être un peu trop facile. La deuxième raison, c'est que j'ai perdu cette autorité à cause de mon péché. C'est l'image du vase souillé que j'ai cité tout à l'heure, qui limite tellement l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Je me suis moi-même disqualifié et je ne peux plus avoir l'autorité que donne le Saint-Esprit parce que j'ai laissé le péché dominer ma vie. Il y a un espoir. Il y a un espoir pour moi, pour toi, parce que l'Esprit a oint Jésus et il l'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te trouves dans cette situation où ton péché annule l'autorité de Jésus dans ta vie. Puis c'est comme si Jésus dit « Renonce à ce péché, humilie-toi ce matin devant ton roi et laisse-le te rendre libre, laisse-le te proclamer la délivrance au niveau de ce que tu vis, pour que tu puisses vivre d'autres choses, des changements dans ta vie. Choisis aujourd'hui de vivre libre, de trouver le pardon, de retrouver l'autorité que Jésus promet. Puis enfin, la troisième raison, c'est que j'ai perdu cette autorité à cause de la peur. J'ai une vie chrétienne saine, mais quand je veux prier avec autorité, ben je me retiens. Parce que j'ai peur de l'échec. J'ai peur que ça ne marche pas. J'ai peur d'être ridicule devant les autres. J'ai peur que les autres me jugent. J'ai peur que les autres me dévalorisent. J'ai peur que ça échoue, que ça échoue. Au fond de moi, je doute que ça va fonctionner. Puis si la personne n'est pas guérie, bien, ça sera certainement à cause de mon manque de foi. Et alors je préfère laisser ça aux autres. Il y a des équipes de prière, gloire à Dieu. Il y a des responsables de l'Église, gloire à Dieu. Je laisse à ceux qui ont plus de foi que moi. Mais moi, je ne veux pas prendre autorité parce que j'ai peur que ça ne marche pas. Ou alors j'ai peur de m'engager dans un combat spirituel dans lequel je devrais prendre autorité parce que je crains peut-être un retour de flamme de l'ennemi. Ça veut dire, oui, mais c'est bien de s'avancer dans le combat, mais qu'est-ce que l'ennemi va faire après? Il va peut-être attaquer ta famille, ta santé, ton porte-monnaie, ta foi, etc. Ah non! Alors je préfère peut-être laisser ça aussi aux autres pour me protéger, puis pour me faire une sorte de d'endroit où l'ennemi n'a pas entré parce que je ne suis pas dangereux pour lui. Et à force de dire, ben, je préfère laisser ça aux autres, finalement je laisse ça aux autres, et puis je n'ai plus cette autorité dans ma vie, et je n'ai plus de changement dans ma vie non plus. Je ne sais pas si c'est votre cas ce matin, mais Jésus nous dit ce matin qu'il nous a donné cette autorité, ce pouvoir pour marcher sur la puissance de l'ennemi, puis ces paroles qui devraient être comme des écrite en lettres de feu dans notre tête, et rien ne pourra vous nuire. Souvent, le diable, il a tellement peur de nous qu'il nous fait peur avant. Et vous savez quoi ? Celui des deux qui a le plus peur, finalement, c'est nous qui n'en fait rien. Chacun de nous avons reçu cette autorité, cette puissance de l'Esprit comme les disciples l'ont reçue le jour de la Pentecôte. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans leur vie. Et aujourd'hui, il est peut-être temps de retrouver cette autorité perdue. Et je vais faire un appel ce matin. Et l'appel que je vais faire est pour ceux qui ont besoin de retrouver cette autorité de l'Esprit dans leur vie spirituelle, dans leur temps de prière, dans leur temps d'intercession. Et cet appel, on va pas le filmer. D'ici quelques instants, chers auditeurs, on va prendre congé de vous. Et puis, une fois que la connexion sera coupée, vous le verrez rapidement, parce que ça va devenir tout noir, je vous encourage à prendre un temps de prière, à laisser le Saint-Esprit vous parler et à faire ce bout de chemin aussi que Jésus vous propose de faire aujourd'hui avec lui, chez vous, dans votre salon, dans votre chambre à coucher ou peut-être à un autre endroit. Alors merci d'avoir été à l'écoute, que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.